Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous vous proposons une carte blanche. Ce sont ces épisodes consacrés à des articles en lien avec notre région, mais parus dans des médias qui ne sont pas nos partenaires. Cette fois, nous nous tournons vers M, le magazine du Monde, pour un article qui s'appelle « L'expo qui scandalise à Bordeaux ». C'est vous qui en êtes les autrices. Bonjour Oksana Azimi et Ondine Milo.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous nous emmenez dans le passé il y a un peu plus de 20 ans, en 2000 précisément, le CAPC, le musée d'art contemporain de Bordeaux, accueille donc une exposition. Elle s'appelle « Présumé innocent ». À quoi ressemble-t-elle cette exposition ?
Alors c'est une exposition qui est très grande, qui prend tout le musée du CAPC, qui est un des plus grands musées d'art contemporain en région, et qui traite des questions de l'enfance et de la création, c'est-à-dire comment l'enfance a été une source d'inspiration et de production de formes pour les artistes. Et les deux commissaires de l'exposition, c'est-à-dire Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moidon, en fait, ont tenté de couvrir tous les aspects de ces liens entre l'enfance et la création, en traitant du jeu, des questions d'échelle, du conte de fées, mais aussi de toute l'ambivalence de l'enfance avec la question de la perversité et peut-être de l'absence d'innocence de l'enfant.
Alors, vous l'écrivez, c'est une exposition qui a scandalisé Bordeaux. Est-ce que sur le moment, je rappelle que nous sommes en 2000, l'exposition crée la polémique ? Elle est en tout cas boycottée par Alain Juppé, le maire de l'époque.
Alors, l'exposition, je ne dirais pas qu'elle crée la polémique, mais elle dérange au sein de la mairie. Elle dérange d'abord par le titre, présumé innocent, parce que un an plus tôt, en fait, Alain Juppé avait été mis en examen dans ce qui deviendra l'affaire des emplois fictifs du RPR à la mairie de Paris. Et certains de ses adjoints, en fait, avaient été choqués par les images reproduites dans le catalogue de l'exposition, donc avaient jugé ces images à la limite de la pédophilie. Mais à ce moment-là, on va dire qu'il y a des bruits qui courent dans tout Bordeaux, mais ce n'est pas la polémique telle qu'on la connaîtra après. Au moment du dépôt de plainte et surtout de la mise en examen des deux commissaires et du directeur du musée.
Oui, parce que le 24 octobre 2000, une association qui s'appelle La Mouette dépose plainte. Contre qui et pour quel motif ?
C'est une plainte assez générale qui, en fait, liste de nombreuses œuvres, de nombreux artistes, de nombreux responsables. Enfin, la plainte est assez vaste, elle sera restreinte ensuite par le juge d'instruction qui ouvre une instruction et qui va donc en fait garder deux motifs qui sont diffusion de messages violents pornographiques ou contraires à la dignité accessible à un mineur et diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Et là, l'instruction est ouverte sur ces deux chefs en 2000. Il n'y aura pas de mise en examen avant 2006, et en 2006 seront mis en examen Henri-Claude Cousseau, Marie-Laure Bernadac et Stéphanie Moidon, donc le directeur du musée et les deux commissaires de l'exposition. Mais La Mouette, au départ, si vous voulez, c'est partie de deux visiteurs qui ont téléphoné à cette association, qui ont dit avoir été choqués par certaines choses dans l'exposition. Et l'association elle-même, n'ayant pu voir l'exposition, a dépêché un de ses membres pour aller la voir et puis a porté plainte. Mais ce qui est assez spécifique dans cette histoire et qui est intéressant, a porté plainte après la fermeture de l'exposition, qui a posé des tas de problèmes ensuite pour vérifier, essayer de voir ce qui était exposé, vu que quand l'instruction démarre, l'exposition est terminée.
Alors, l'association qui dépose plainte, vous l'avez dit, s'appelle La Mouette. Elle est notamment taxée d'intégrisme à l'époque. Vous pouvez nous en parler, notamment vous, Ondine, qui avez rencontré sa responsable pour les besoins de cet article.
Oui, alors, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand malentendu. Cette histoire qu'on a écrite, c'est vraiment l'histoire d'un grand malentendu. C'est-à-dire que, d'un côté, le monde de l'art contemporain ne comprend pas l'ingérence d'une association de protection de l'enfance et donc va un petit peu outrer son propos. Et puis, de l'autre, c'était une grande première. Jamais plainte n'avait été déposée par une association de protection de l'enfance contre une exposition artistique. Et donc La Mouette, c'est une association qui se base à Agen et qui en fait est en général chargée de l'accompagnement de mineurs, notamment comme administrateur ad hoc, qui les accompagne devant la justice, qui fait des tas de choses formidables pour la protection de l'enfance, qui s'occupe de l'ouverture de salles d'écoute dans les gendarmeries pour l'audition des enfants, les salles Mélanie, qui fait tout un tas de choses comme ça. Et puis là, pour la première fois, qui va dans un domaine où elle n'est jamais allée et où la protection de l'enfance va assez rarement. On a du mal à expliquer pourquoi les discours se sont crispés comme ça, mais c'est peut-être à l'origine de ce mot intégriste. Donc c'est pas une association intégriste du tout. C'est une association tout à fait respectable. Mais il y a eu aussi à Bordeaux, à la même époque, d'autres associations qui ne sont pas La Mouette, qui n'ont rien à voir même, qui portaient plainte contre la tenue d'un salon érotissimo, qui portaient plainte contre la diffusion d'un livre de Bettina Reims dans certaines librairies avec des représentations du Christ qui ne leur plaisaient pas. Et donc peut-être qu'il y a une sorte d'énorme amalgame qui s'est fait autour de tout ça. Et en tout état de cause, effectivement, il y a eu un certain nombre de mots d'oiseaux échangés.
Quand elle est déposée, est-ce que cette plainte rencontre un grand écho ?
Alors, quand elle est déposée, il y a quelques articles de presse, dans Sud-Ouest notamment, Le Monde, Les Inrecuptibles, et qui sont tous un petit peu des cris d'alarme en disant mais d'où la justice arrive, pourquoi, de quoi viennent-ils se mêler, quoi. En gros, c'est ça, mais c'est assez calme, et puis il faut vraiment attendre 2006, la mise en examen, puisque c'est une grande première à nouveau, hein. Jamais des commissaires d'exposition, un directeur de musée n'a été mis en examen pour diffusion de messages violents, pornographiques, etc. Il faut attendre ce moment-là pour que là, la presse, vraiment de manière unanime, prenne position un petit peu en soutien des organisateurs de l'exposition et de la liberté artistique.
Alors 2006 pour les mises en examen, il s'écoule donc 6 ans. Pourquoi la justice a-t-elle mis si longtemps à se saisir de cette affaire ?
Techniquement, elle est saisie en 2000. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une succession, il y a un juge d'instruction qui part à la retraite, je crois, enfin, ou en tout cas qui quitte son poste, puisque c'est un autre juge qui arrive. Et dès le départ, la première juge, qui donc ensuite est partie, avait dit « j'ai beaucoup de dossiers sur mon bureau et évidemment, on n'est pas dans une priorité ». Il n'y avait pas d'urgence. Dans la mesure où personne n'était en danger, l'exposition était terminée, elle n'était pas itinérante, elle n'allait pas être remontée ailleurs. Donc je pense que c'est juste un problème d'engorgement de la justice.
Thank you. Que disent, à partir de 2006, les avocats des deux camps ?
Les avocats de la Mouette, de leur côté, invoquent deux choses, les deux axes de la plainte. Le fait que des mineurs aient pu éventuellement avoir accès à des œuvres qui auraient été d'ordre pornographique. Et là, ils parlent beaucoup d'une œuvre d'une artiste autrichienne, notamment, qui s'appelle Elke Christufek, et qui, effectivement, il y avait une vidéo, plusieurs témoignages semblent corroborer le fait que sur cette vidéo, il y avait des images de masturbation et des images à ne pas montrer à tous les enfants visitant l'exposition. Mais le musée avait pris la peine de fermer cette œuvre et de l'interdire, d'interdire son accès aux mineurs. Et l'autre chose que disent les avocats de la Mouette, c'est est-ce que éventuellement sur d'autres œuvres, l'image du mineur n'est pas dégradée. Donc c'est autre chose là, c'est plus le fait qu'on peut choquer un enfant visiteur en lui montrant une œuvre choquante, c'est le fait que l'œuvre elle-même serait choquante pour les mineurs. Voilà du côté de la Mouette, hein. Et de l'autre côté, donc Richard Malka qui défend Henri-Claude Cousteau ou Emmanuel Pierra qui défend les deux commissaires d'exposition, ils ont un message sur la liberté de l'art, et puis eux contestent de toute façon toute connotation pornographique des œuvres.
Richard Malka, qui est notamment connu pour être l'avocat de Charlie Hebdo. De quelle manière se termine pour la justice cette affaire ?
Ça se termine par un non-lieu. C'est en 2010, et puis après la Mouette se pourvoit en cassation, mais la cassation est rejetée. Un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. C'est-à-dire qu'en fait, ces deux chefs de poursuite, diffusion de messages violents pornographiques ou diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, sont pas des infractions qui sont constituées par l'exposition, ou en tout cas qui n'ont pas pu être prouvées par l'enquête. Donc ça s'arrête. Cette procédure finalement n'aura existé surtout essentiellement que dans les journaux et dans le monde de l'art.
Oui, justement, parce qu'il y a ce non-lieu, il y a ce rejet du pourvoi. Pourtant, l'affaire continue de faire des vagues, hein.
Ah oui, l'affaire fait 20 ans après des vagues, d'où le fait d'ailleurs qu'on ait fait un article autour de ça. C'est une affaire qui a été très traumatisante pour les trois mis en examen. D'ailleurs, le directeur de l'époque, Henri-Claude Cousseau, n'a pas voulu nous parler. C'est une affaire qui est toujours brûlante pour lui. Et pour les commissaires, il y avait une grande méfiance autour du traitement qu'on allait accorder à cette affaire. C'était un énorme traumatisme pour eux, mais globalement pour le monde de l'art aussi, parce que c'est vrai que l'irruption de la sphère judiciaire dans leur monde était totalement inédite à cette échelle. Alors il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir des demandes de censure, d'exposition, etc. Mais là, ça avait pris une tournure inédite et assez foudroyante. Et c'est vrai que 20 ans plus tard, en fait, le souvenir de cette exposition est toujours traumatisant. Dès qu'un commissaire se met en tête d'exposer des œuvres représentant des enfants ou des adolescents, ou d'organiser une exposition autour du thème de l'enfance, on lui rappelle systématiquement, oh là, attention, tu te rappelles le précédent présumé innocent. C'est toujours comme une épée de Damoclès ou comme un épouvantail, en fait, pour le monde de l'art.
C'est la raison pour laquelle, dans la version web de votre papier, le titre est le suivant, présumé innocent, l'expo sur l'enfance qui scandalisa Bordeaux et changea le monde de l'art. On est vraiment dans cette dimension ? On a vraiment changé le monde de l'art par cette expo ?
En fait, plusieurs choses. L'exposition, c'est pas tellement l'exposition qui a changé le monde de l'art, parce que faut quand même l'avouer, peu de gens ont vu l'exposition. L'exposition a fait 25 000 entrées, et beaucoup de gens qui même après l'ont défendue ne l'avaient pas vue. C'est plutôt le procès qui a découlé, qui a changé les choses. En fait, ce qui a changé, c'est ce que dit Emmanuel Pierra dans l'article, c'est l'irruption de la censure, de l'autocensure. En fait, tous les acteurs du monde de l'art ont pris peur et se sont dit il faut qu'on fasse attention. Alors, il faut qu'on fasse attention. D'abord, il y avait l'idée de il faut faire attention parce que ce qui est arrivé à nos collègues, confrères, peut peut nous arriver, donc faisons attention, ne prenons pas de risques. Et c'était ça a donné lieu en 2010 au fait que l'exposition Larry Clark a été interdite aux mineurs, aux moins de 18 ans. Et ça a aussi donné un sentiment de responsabilité, c'est-à-dire de se dire, est-ce qu'on peut tout montrer ? C'est pas juste ne montrons pas parce que on peut nous poursuivre, mais est-ce que finalement est-ce qu'on doit tout montrer ? Est-ce que tout est montrable ? Est-ce que tout est montrable aux yeux de tout le monde ? Comment est-ce qu'on peut le montrer ? Par quelle opération de médiation ? Et là, je dois l'avouer, les commissaires d'exposition sont toujours mal à l'aise avec cette matière qui reste inflammable, la matière de l'enfance.
Ondine, Roxana, nous sommes aussi là pour essayer de comprendre le travail journalistique. Pour quelle raison avez-vous souhaité revenir sur cette affaire ? Pourquoi maintenant ?
C'est parti en fait d'une demande de M, le magazine du Monde, qui nous a contactés toutes les deux, Roxana en tant qu'experte de tout ce domaine de l'art contemporain, et puis moi en tant que journaliste judiciaire, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait quand même un certain contexte, aussi bien avec les affaires Maznev qu'avec l'affaire Claude Lévesque. Alors Claude Lévesque, c'est un artiste qui était dans l'exposition, mais dont l'œuvre exposée ne posait pas de problème. On n'avait pas fait l'objet de poursuites. Il leur semblait que aujourd'hui, plus que jamais, la question de comment on représente l'enfance, Roxana disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut pas montrer, mais tout particulièrement par rapport à l'image de l'enfant, il leur semblait qu'elle s'était jamais posée autant qu'aujourd'hui et que finalement on pouvait retrouver dans cette exposition une forme de précurseur, en fait. Cette polémique qui a commencé en 2000, qui a rejailli en 2006, finalement elle brassait un certain nombre de thèmes qu'on voit revenir aujourd'hui. Et donc l'idée, je crois que M, le magazine du Monde, aime bien faire ça, des articles un petit peu historiques, c'est-à-dire d'éclairer le présent avec le passé, soit lointain, soit plus proche, de tisser des liens comme ça pour voir les évolutions. Je crois que c'était l'idée.
Un mot sur Claude Lévesque que vous avez évoqué et qui est au cœur d'une affaire depuis quelques mois.
C'est une plainte qui a été déposée en 2019 par un artiste qui s'appelle Laurent Follon et qui accuse Claude Lévesque d'attouchements, d'agressions, des premiers attouchements qui auraient commencé alors qu'il avait 10 ans et qui se seraient poursuivis sur une longue période. Cet artiste, en fait, a mis beaucoup de temps à pouvoir vivre avec ça, avec ses souvenirs, et à en rendre compte. Il sait très bien que quand il a déposé plainte, en fait, les faits sont aujourd'hui prescrits, mais son espoir, c'est que d'autres enfants, adolescents qui auraient pu être victimes de Claude Lévesque se manifeste également. Et donc bon, l'affaire est toujours en cours. Claude Lévesque n'a pas encore été entendu par la police. Des victimes présumées, ou en tout cas signalées dans la plainte, ont été entendues. Mais il n'y a rien de nouveau pour l'instant à dire sur le sujet.
Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, cette affaire ? Quel regard vous portez sur cette affaire aujourd'hui ? Et est-ce que vous pensez qu'elle aurait été traitée de la même manière si elle s'était passée ces mois derniers ?
En fait, ce que ça traduit, ce que disait très bien Ondine tout à l'heure, c'est le grand malentendu, en fait, entre le monde de l'art qui s'est senti assiégé, mal compris, traîné dans la boue, et le monde associatif qui s'est senti aussi mal compris, traîné dans la boue aussi, et dont les motifs d'inquiétude n'ont pas été saisis par les acteurs du monde de l'art. On a beaucoup critiqué la Mouette, on l'a accusé d'être proche d'intégristes, de mouvements d'extrême droite. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait beaucoup plus attention, y compris le monde de l'art, à ce type de d'amalgame. Et je crois que le monde de l'art est un peu plus sensibilisé au fait que, oui, l'art en fait est un domaine c'est comme la fiction, c'est comme la littérature, il y a une différence entre ce qu'on représente, entre la représentation et l'action, et un artiste qui représente des enfants dans certaines positions, ça ne veut pas dire qu'il va leur faire du mal, ni qu'il est un pervers. Ce n'est pas du tout ça, ni forcément ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le monde de l'art est obligé de se poser des questions. Et ça, c'est assez inédit. C'est-à-dire, il y a 20 ans, il ne se posait pas de questions. Pas tant que ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a une irruption du réel, quelque part, hein, dans ce monde qui a un peu vécu dans ses idées libertaires. Et là, il doit faire avec. Et c'est pas du tout évident, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse très claire, ni de position très tranchée qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, tout ne peut être que dans la nuance. C'est une position extrêmement difficile, la nuance.
Merci beaucoup Roxana Azimi et Ondine Milo d'être venues au micro de Podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru dans M, le magazine du Monde, l'expo qui scandalisa Bordeaux. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delan, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde Deleuil, Marion Ruot et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.